Virginie Langeroc.
Bonjour. Plusieurs heures après le puissant séisme survenu la nuit dernière dans le Pacifique au large de la Russie, des premières vagues ont touché cette nuit l'archipel des Marquises. En Polynésie française, des vagues d'un peu plus d'un mètre qui n'ont fait ni dégâts ni victimes grâce à l'activation des plans de sauvegarde. Du Japon à l'Équateur, des millions de personnes ont évacué les côtes de leur pays pour se mettre à l'abri. Aucune victime n'a été signalée dans les médias. Dans plusieurs pays, le niveau d'alerte au tsunami a finalement été rétrogradé à celui d'appel à la vigilance. C'est le signe que les systèmes d'alerte fonctionnent bien. La venue à Genève de hauts responsables russes, dont plusieurs personnalités sous sanction, suscite la colère des opposants russes de Suisse et d'ailleurs. Plus de 200 opposants à Vladimir Poutine, dont des dissidents de premier plan, ont adressé une lettre ouverte aux parlementaires suisses. Ils dénoncent la levée temporaire des sanctions décidées par la Suisse pour permettre justement la participation de quelques hauts responsables russes à la conférence de l'Union interparlementaire qui prend fin aujourd'hui. À l'origine de la lettre, un membre du comité de l'association Russie du futur, Oleg Mikhailov. Alors que ces responsables russes sont directement liés, selon lui, à la répression en Russie ainsi qu'à l'agression contre l'Ukraine, il y voit un affaiblissement des valeurs démocratiques.
Si les pays sanctionnent les gens sur leur territoire, ça devrait être assez strict et on ne comprend pas pourquoi on peut lever les sanctions juste exceptionnellement pour que ces personnes interviennent à un forum, à une conférence. Donc on ne comprend pas le principe. Je pense que ce ne sont pas des vrais parlementaires. Et ils sont des propagandistes politiques. Et donc, je pense que si on les invite, si on commence à discuter avec eux, c'est un signal alarmant. Ça veut dire qu'on perd ses valeurs démocratiques. Donc, ce ne sont pas des gens qui partagent les mêmes valeurs que nous.
Ce membre du comité de l'association Russie du futur, interrogé par Miruna Coca-Cosma. L'Ukraine dit quant à elle vouloir corriger une loi qui met en danger l'indépendance de deux agences anticorruption. Cette loi a suscité un tollé et des manifestations en Ukraine. Elle prévoyait de placer l'Agence nationale anticorruption notamment directement sous la tutelle du procureur général, lui-même nommé par le chef de l'État. L'Inde est la nouvelle cible des droits de douane de Donald Trump. Les produits indiens vont faire l'objet de droits de douane de 25%. Décision du président américain Donald Trump hier. L'Inde était pourtant l'un des pays qui s'était le plus rapidement profilé pour tenter de conclure un accord commercial équitable et équilibré avec les États-Unis. Explication Mathilde Farine.
Mais les négociations se sont enlisées. La première stratégie de l'Inde a été d'éviter l'affrontement, comme son rival chinois, et même de profiter des tensions entre Pékin et Washington. New Delhi voulait ainsi se profiler comme une alternative à l'usine chinoise. Et puis l'Inde, elle-même friande de taxes et autres barrières douanières, pouvait espérer une certaine connivence avec les États-Unis. C'est plutôt le contraire qui s'est produit. Donald Trump a surnommé ce pays le roi des tarifs, l'un de ceux qui taxent le plus les produits américains. Et puis les négociateurs indiens ont changé de tactique. Ils ont résisté en particulier à toutes les demandes américaines concernant l'agriculture, une agriculture que le pays veut protéger parce que plus d'un Indien sur deux travaille dans ce secteur. L'Inde se retrouve donc avec des droits de douane plus élevés que le Japon ou le Vietnam. Elle fera aussi face à des pénalités si elle continue d'acheter du pétrole russe.
Donald Trump qui a aussi annoncé hier une surtaxe de 50% sur les produits brésiliens importés aux États-Unis. Le scarabée japonais se développe dans l'arc lémanique. Il est déjà présent au Tessin et en Italie depuis plusieurs années. Des foyers de cet insecte ravageur ont été détectés dans les cantons de Vaud et Genève. Ce coléoptère nuisible peut menacer plus de 400 espèces végétales. Des cultures aux fruitiers en passant par les arbres forestiers, les gazons et les rosiers, son appétit est vaste. À même de dévorer les plantes de haut en bas, des hordes de scarabées japonais ne laissent parfois des feuilles qu'un squelette. Ces larves, quant à elles, s'en prennent aux racines jusqu'à occasionner la mort des plantes et des pertes de rendement. Malgré la propagation de cet insecte, les autorités ne baissent pas les bras. L'éradication est encore possible au nord des Alpes, estime Alan Storelli, responsable du service phytosanitaire de l'Agroscope.
Alors le plus important, c'est de ne pas ramener du matériel de ces zones touchées. Donc si vous allez en vacances en Italie, ne ramenez surtout pas des pots en Suisse. Et aussi important, c'est de pouvoir le reconnaître et de différencier, par exemple, des vannetons. Donc, il y a des caractéristiques assez uniques. Ce scarabée japonais, par exemple, il fait la taille d'une pièce de 5 centimes. Donc, souvent, les vannetons sont plus grands. Et aussi, très caractéristique du scarabée japonais, il a des touffes de poils blancs autour de son abdomen, donc du corps de l'insecte. Et il aura un corps avec des ailes plutôt couleur brun cuivre et une tête vert métallique. Et bien, si maintenant les jardiniers amateurs trouvent ce scarabée, le réflexe, c'est de signaler aux autorités cantonales.
Des propos recueillis par Sandrine Hochstrasser. En cyclisme, la Mauricienne Kim Lecourt a remporté hier à Guéret la 5e étape du Tour de France femmes. Elle devient ainsi la première coureuse du continent africain à remporter une étape de la grande boucle. Elle en a profité pour ravir le maillot jaune à la néerlandaise Marianne Vos. Et puis en football, Servette ne jouera pas la Ligue des Champions. Servette a tout perdu lors du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Face au Victoria Pilsen, les Genevois se sont inclinés 3-1. Le temps aujourd'hui, alternance de soleil et nuages avec quelques averses parfois orageuses en montagne. En plaine, minimum 13 degrés, maximum 25 degrés. Demain, du soleil en plaine, quelques nuages en montagne avec quelques averses dès la fin de la matinée possible qui pourraient localement prendre un caractère orageux. Passez une très belle journée à l'écoute de nos programmes.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
De l'élégance lumineuse de Mendelssohn à la puissance expressive de Brahms, ce samedi, au Festival de Verbier, l'orchestre de chambre de Verbier, dirigé par Theodor Currentis, interprète la 4e symphonie, l'italienne, de Mendelssohn, et le concerto pour violon de Brahms avec le violoniste belge Marc Bouchkov. Rejoignez-nous ce samedi, dès 19h30, dans l'été des festivals, sur RTS Espace 2 et RTS Play.
Musique Matin, Sidney Fierro.
Bonjour à toutes et tous. Il est 7h08 à l'écoute d'RTS Espace 2. Nous sommes le jeudi 31 juillet, dernier jour de ce mois de juillet. Demain, fête nationale, 1er août. Nous avons 2 heures à passer ensemble en musique, bien sûr, avec des compositeurs comme Shostakovich, Schumann notamment, Vivaldi également. Et un joli programme ce matin, puisqu'il y aura le concours Payot vers 7h15 à peu près. Dans la nouveauté du disque, après les informations de 8h, je vous parlerai de ce tout nouvel album avec la musique de Mikhaïl Pletnev, un concerto pour trompette, mais aussi des mémoires musicales écrites pour orchestre symphonique. On en parlera plus longuement tout à l'heure. J'ai des places à vous distribuer pour un récital monumental de la pianiste Katia Bouniatichvili au Gstaad Menuhin Festival le 10 août prochain. Et puis comme invité ce matin, j'aurai le plaisir d'avoir Christina Plouard, directrice artistique de l'Arpeggiata, au téléphone, qui donnera un concert mercredi prochain à l'église de Zannen dans le cadre du Gstaad Menuhin Festival. Voici donc le programme de ce matin. On commence tout de suite avec une valse.
Thank you.
Et oui, ça sent bon, la baguette chaude, le petit café qu'on prend en terrasse quelque part entre la Tour Eiffel, le pied du Sacré-Cœur ou que sais-je encore, les grands boulevards puisque nous étions à Paris avec cette valse extraite du Chevalier Jean. C'est un ballet du compositeur Victorin Joncière qui a signé donc l'intégralité de la musique de ce drame lyrique et nous en entendions ici une interprétation par François-Xavier Roth avec son ensemble Les Siècles. C'est un album qui s'appelle Les Nuits de Paris, Dance Music from Folie Bergère. Peut-être que je devrais dire Folie Bergère avec l'accent anglais. Eh bien, une jolie façon donc de débuter cette journée à trois temps et sur la pointe des pieds puisqu'on est bien lancé dans notre élan de danse. Voici notre valse signé Shostakovich cette fois-ci.
Thank you.
Et voilà de quoi nous mettre de bonne humeur dès le matin. C'était une polka extraite du Clair Ruisseau. C'est un ballet en trois actes avec la musique de Dimitri Shostakovitch. Et puis juste auparavant, nous étions dans une valse extraite du Conte, du Pop et de son ouvrier, Balda. C'est une musique pour un dessin animé de Mikhail Zechanovsky, inspiré d'un conte de Pouchkine en deux parties, qui était inachevé. La musique de Shostakovitch encore. Et nous entendions l'alliage quintette avec saxophone et clarinette. Il est 7h18 et c'est le moment de jouer.
Le concours de musique matin avec Payot Libraire.
Alors je vous ai concocté une question à la croisée entre la science et la musique ce matin. Nous allons écouter une chanson qui s'appelle Le moteur à explosion de l'ensemble Chanson Plus Bifluoré. Ça sent bon les années 90. Et donc, je vous demanderai de bien prêter attention à ce qui est dit dans cette chanson et à la musique qui est interprétée, puisque voici les deux questions que je vous pose. Selon cette chanson, quelles sont les données dans le bon ordre de la propulsion ? Et puis la deuxième question que je vous pose, c'est il y a deux chanteurs emblématiques de la chanson française qui se cachent derrière cette chanson. Qui sont-ils ? Et quel est, dites-moi pourquoi. Voilà, tout simplement, ça sera plus simple. Vos réponses à matinconcours@rts.ch. matinconcours@rts.ch.
Quel est le principe du moteur à explosion ? L'énergie thermique produite par combustion. Quelle est sa dynamique et ses multiples fonctions? Voyons le principe du moteur à explosion. La soupape d'admission s'ouvre, le piston aspirant ainsi le carburant. Le piston comprimant remontant le carburant. Ensuite a lieu le troisième temps. Les soupapes étant fermées, le piston redescend. S'ouvre, le piston pousse en montant, le piston pousse en montant, et tout ce système fonctionne en utilisant l'énergie thermique du mélange carburant. Aspiration, compression, temps, moteur, expulsion sont les données de la propulsion. Mais attention, nous ne parlons ici que des types de moteurs à explosion. Oui! Quel est le principe du moteur à explosion? Quel est le principe du moteur à explosion?
Voilà. Le principe d'explosion. Le principe d'explosion.
Quel est le principe du moteur à explosion? Quel est
le principe du moteur à explosion?
Quel est le principe du moteur à explosion?
Quel est le principe du moteur à explosion?
Quel est le principe du moteur à explosion?
L'énergie thermique produite par combustion, produite par combustion, produite par combustion, 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 combustion.
Bon, voilà le principe du moteur à explosion. Excusez-moi.
Je vous en prie.
Voilà le principe du moteur à explosion. Qu'il fut à l'époque une vraie révolution, une vraie révolution, une vraie révolution. Wow, 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 wow.
Nous sommes en 1842. Robert Schumann a alors 32 ans. Il est marié depuis 2 ans avec Clara Wieck, qui est devenue sa femme, enfin, après une longue lutte pour obtenir sa main. C'est une pianiste de génie. Ils vivent ensemble à Leipzig. C'est une période pour Schumann de grande intensité émotionnelle, artistique aussi. C'est l'année de la musique de chambre, comme on l'appelle cette année dans la vie de Schumann. Après s'être beaucoup consacré au piano, il va s'ouvrir à cette musique de chambre comme s'il avait besoin d'étendre son souffle. Et pour notre plus grand plaisir, il faut le dire, ils vivent ensemble donc un amour absolument merveilleux, très stimulant aussi, puisque non seulement elle est son épouse, mais c'est aussi son interprète privilégié, sa première lectrice. Il compose souvent pour elle, avec elle, à travers elle. Elle est la dédicataire de cette œuvre que nous venons d'entendre et elle l'a jouée elle-même, elle l'a créée avec quelques amis qu'ils avaient ensemble. C'était le quatuor pour piano, violon, alto et violoncelle en mi bémol majeur, dont nous avons entendu l'Andante Cantabile. La musique de Robert Schumann, donc avec Isabelle Faust au violon, Antoine Tamesti à l'alto, Jean-Guillain Queyras au violoncelle et Alexander Menikov au pianoforte. Alors nous avons entendu Robert, voici à présent Clara. Voilà, après avoir entendu la voix de Robert Schumann, nous entendions ici celle de Clara Schumann, son épouse bien-aimée. C'était un extrait des trois romances pour violon et piano composées en 1853 à Düsseldorf, probablement avec le violoniste Joseph Joachim, qui était un grand virtuose de son temps et un ami proche du couple Schumann. Nous entendions ici Nourrit Stark au violon et Cédric Pécha au piano. Il est 7h33 et vous êtes bien à l'écoute d'RTS Espace 2. Alors je vois qu'il y a quelques difficultés pour le concours de ce matin. Allez, je vous donne un indice. Le premier chanteur de la chanson française dont je vous demandais le nom a écrit une certaine chanson douce. Le deuxième, un peu plus difficile, a comme prénom Georges.
Some
De joie dans des effluves de jazz pour ce titre Akwe que nous entendions avec Gretchen Parlato. C'est l'une des chanteuses de jazz les plus en vogue en ce moment, qui se passe parmi les voix majeures du jazz contemporain américaine. Elle est née en 1976 à Los Angeles. Elle était accompagnée par le guitariste et vocaliste béninois Lionel Loueke, qui lui a étudié au Berklee College of Music ensemble. Ils ont écrit ce titre qui est tiré de leur album qui s'appelle Lean In, paru aux éditions Records. Il est 7h39 et vous êtes bien à l'écoute d'RTS Espace 2. Bon réveil en musique. Thank you. Sous les doigts de Lisa Smirnova et sur la musique de Georg Friedrich Händel. C'était une allemande, une courante et une gigue extraite des suites pour clavecin. Numéro 8 ici, en fa mineur, dans cette version. Pour piano, il est 7h46, c'est le moment du résultat du concours.
Le concours de Musique Matin avec Payot Libraire.
Chantait ma maman.
Et oui, c'était donc cette musique qui était citée dans la chanson de l'ensemble Chanson Plus Bifluoré que nous avons entendu et qui nous faisait état et qui nous informait sur le mécanisme du moteur à explosion. Je vous posais plusieurs questions en écoutant cet extrait. Donc, quelles étaient les données dans le bon ordre de la propulsion? Alors, les données dans le bon ordre de la propulsion de ce moteur à explosion, donc telles qu'elles sont données dans la chanson, c'est l'aspiration, la compression, le temps moteur et l'expulsion. C'était la réponse que j'attendais ce matin et je vous ai demandé également par rapport à la musique donc qui étaient les deux chanteurs emblématiques de la chanson française qui se cachent derrière cette chanson. Eh bien, il y avait Henri Salvador, c'était une évidence ici, avec une chanson douce, on l'entend bien, qui reprenait donc la même mélodie. Mais il y avait un autre chanteur un peu plus difficile à entendre à ce moment-là.
Produite par combustion, produite par combustion, 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 tiens, bon, voilà le principe du moteur.
Pour explosion. Mais non, excusez-moi.
Je vous en prie.
Et oui, c'était Georges Brassens qui était ici cité, et c'était donc la deuxième réponse que j'attendais. Alors, il y a eu pas beaucoup de gens qui ont écrit ce matin, c'est pas très grave, vous écrirez demain matin, on fera une question du concours peut-être un peu plus simple, un peu moins précise. En tout cas, félicitations à toutes et tous, même ceux qui n'ont pas joué, qui ont écouté cette question avec intérêt, et tout spécialement ce matin, eh bien, je dois féliciter Julien Hessler. Cher monsieur de Buchenhain, c'est vous qui avez été tiré au sort et qui avez obtenu toutes les bonnes réponses. Félicitations et excellente journée.
La même caresse se vit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie.
Et c'était le troisième et dernier mouvement des Nuits dans les Jardins d'Espagne de Manuel de Falla, composé entre 1909 et 1915. Ce n'est pas vraiment un concerto à proprement parler. Falla lui-même parlait plutôt d'impression symphonique. Il précise d'ailleurs qu'il ne s'agit pas ici d'un concerto pour piano, mais d'une suite d'impressions symphoniques dans lesquelles le piano tient un rôle principal sans sortir du cadre orchestral. Voilà, il s'écarte un peu de ce qui se faisait alors avec cette œuvre et pour explorer eh bien, une Espagne intérieure imaginaire entre le réel, le symbolique, où le piano eh bien, tient une voix solistique un peu rêveuse comme ça, complice des couleurs orchestrales. Et nous étions ici au cœur, au cœur de l'Andalousie, dans Los Jardines de la Sierra de Córdoba, les jardins de la Sierra Córdoba. C'est la musique de Vivaldi avec beaucoup de liberté d'improvisation. L'arpeggiata Christina Plouard, que j'aurai le plaisir d'avoir au téléphone tout à l'heure, juste après la nouveauté du disque vers 8h20. Mais maintenant, c'est le moment des informations, il est 8h.